des sous et des hommes. Une émission de Pascal Fourier. Et notre invité aujourd'hui.
Voilà, Louis Weber, je suis de l'Institut de Recherche de la FSU. La FSU, la Fédération Syndicale Unitaire, la principale fédération syndicale dans l'enseignement, la recherche et la culture.
Diable. Eh bien, visiblement, les enseignants ne sont pas contents, mais vraiment pas contents du tout. On les a vus notamment à la grande manifestation pour les retraites, mais en réalité, ils avaient deux axes de combat, qui étaient d'une part le combat contre la réforme des retraites qui s'annonce, et d'autre part le combat contre la décentralisation. Moi, je trouve ça un petit peu étonnant. Visiblement, les professeurs sont toujours opposés à tout. Ils sont toujours mécontents parce que cette décentralisation va permettre plus de proximité. Enfin, c'est du moins ce que j'ai compris en entendant les propos des ministres concernés. Donc, cette décentralisation, je vois vraiment pas le problème. Est-ce que vous pourriez m'aider à comprendre ?
Oui, d'abord, la décentralisation, c'est effectivement une préoccupation importante, mais elle s'inscrit quand même dans un cadre plus large, hein, je dirais, la politique éducative du gouvernement actuel, hein. Il y a eu des suppressions d'emplois, il y a eu des... On a pratiquement mis fin au collège unique, hein, c'est-à-dire à 25 ans d'essai, en tout cas, d'une plus grande justice au sein de l'école. Donc c'est par rapport à tout ça. Maintenant, sur la décentralisation elle-même, c'est vrai que c'est une préoccupation importante. Je crois qu'il faut aller au-delà des mots. Hein. D'abord, le système actuel, il est inégalement centralisé ou inégalement décentralisé. Les écoles primaires, par exemple, on ne voit pas ce qu'on pourrait faire de plus pour les rapprocher de la population, des quartiers. Les universités à l'autre bout de la chaîne éducative sont complètement autonomes, donc le problème se pose encore en termes différents. Donc on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, surtout après les lois du début de 1982-1983, on n'est plus dans un système centralisé comme il a pu l'être à un moment. Ça, c'est la première remarque. Et j'ai une deuxième remarque. La décentralisation, elle ne prend de sens, hein, que si on l'inscrit justement dans une politique. Pour éclairer ce point, je prends un exemple précis. En Angleterre, le système est traditionnellement très décentralisé. Hein. C'est une tradition qui remonte d'ailleurs au Moyen-Âge sous certains aspects. Quand Madame Thatcher, Premier ministre très très libéral, est venu au pouvoir en 1980, la première chose qu'elle a faite, c'est de recentraliser. C'est-à-dire, elle a voulu, alors que c'était créé au fil des ans des lieux de vie démocratique dans les ensembles décentralisés, elle a voulu casser ça. Donc en France, la décentralisation en tant que telle, qui s'y opposerait ? Ce qu'il faut par contre voir, c'est à quoi elle sert. Or, la décentralisation Raffarin-Ferry, nous l'interprétons, et les enseignants l'interprètent à juste titre, comme une forme supplémentaire de désengagement de l'État, non pas simplement pour transférer des responsabilités, des ressources au niveau territorial, hein, mais en réalité pour laisser les territoires, que ce soit les départements, enfin les communes, les départements ou les régions, pour leur confier de nouvelles missions sans les moyens qui les accompagnent et sans que ces structures-là soient en mesure de le faire. Et ça va se traduire donc par un renforcement, c'est en tout cas ce que nous craignons, nous avons des éléments pour ça, un renforcement considérable des inégalités. On sait que nous sommes déjà dans un système très inégal. Là où c'est le plus décentralisé aujourd'hui, au niveau des écoles primaires par exemple, hein, puisqu'elles dépendent des communes. Si on prend les crédits pédagogiques par élève et par an, c'est-à-dire les crédits que le maître a à sa disposition pour acheter du petit matériel, pour faire des excursions, pour organiser des activités pédagogiques, des échanges de classes, et ainsi de suite, mais on se rend compte que ça peut aller de 70 francs par élève et par an dans certaines communes jusqu'à 700, c'est-à-dire un rapport de 1 à 10. Et on pourrait prendre d'autres exemples. Hein. Aux États-Unis, où il y a aussi différents étages, il y a l'État fédéral, il y a les États, et puis les districts scolaires, on voit que un système très décentralisé, s'il n'est pas accompagné d'une politique de péréquation et de réduction des inégalités, eh bien, il conduit à des écarts de ce type-là, 1 à 10. Alors, je crois que j'ai pas besoin de préciser que là où c'est 10 fois plus important, c'est pas dans les communes pauvres. Hein, c'est exactement le contraire. Il pleut toujours aussi mouillé, comme on disait naguère, mais ça, c'est dramatique dans la situation d'inégalité dans laquelle vit déjà actuellement le système éducatif.
Mais quand on parle de décentralisation, en quoi ça consiste précisément ?
Mais pour de manière concrète, bon, aujourd'hui, on n'est pas dans un système qui est intégralement centralisé, hein, puisque pour ce qui concerne les constructions scolaires, par exemple, les écoles primaires, c'est les communes, les collèges, c'est les départements, les lycées, c'est les régions. C'est d'ailleurs assez récent, ça, hein, et ça avait été apprécié de façon positive, hein, parce que la politique qui encadrait ce mouvement de décentralisation qui a commencé il y a 20 ans était une politique qui se voulait, en tout cas, égalitaire, hein, plus égalitaire que celle qui est faite aujourd'hui. Bon, pour les personnels, c'est un peu la même chose. Les professeurs d'école sont recrutés au niveau des départements, les professeurs des lycées sont recrutés au plan national. Ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est l'État veut confier aux régions et aux départements un certain nombre de tâches qu'il assurait jusqu'ici. L'exemple le plus connu et qui provoque le plus de protestations aujourd'hui est celui d'abord des assistantes scolaires de l'éducation et celui des conseillers d'orientation psychologues. Hein. Deux types de personnel qui accompagnent, hein, qui aident beaucoup justement à avoir un système éducatif où chacun trouve son compte le plus possible. Bon, renvoyer ces personnels sous la responsabilité des régions, ça veut dire en clair changer leur mission. Les assistantes scolaires, par exemple, qui jouent un rôle utile. Interroger, par exemple, les enseignants, les familles en Seine-Saint-Denis, par exemple, pour voir dans, même si elles ne résolvent pas tous les cas, loin de là. Hein. Bon, elles sont quand même d'une aide considérable pour améliorer la situation. Là, quand elles dépendront des départements, elles ne seront plus spécialisées dans le domaine scolaire. Hein. Elles seront, c'est-à-dire, on changera leur fonction, ce qui veut dire en clair que l'école perdra des personnels hein, qui jusqu'ici jouaient un rôle important. Non pas pour les élèves qui réussissent, hein, mais justement pour ceux où l'école a le plus de difficultés, c'est-à-dire à faire réussir ceux qui sont déjà qui sont déjà dans une situation très difficile.
Mais changer leur fonction, pourquoi ? Parce que les conseils régionaux peuvent très bien payer les assistantes sociales ou les conseillers d'orientation psychologues exactement pour les mêmes tâches.
Oui, non, mais heureusement, ils seront sûrement payés de la même façon, mais seulement ce qu'on sait déjà maintenant, hein, des conseils généraux qui ont un important besoin de personnel. Et ça recouvre un autre aspect des processus de décentralisation qui s'annoncent. Rien ne garantit aujourd'hui, et tout indique au contraire, que nous sommes en présence d'un phénomène de désengagement de l'État, et il n'est pas du tout acquis, hein, c'est même le contraire qui peut être dit, hein, que le fait de confier des tâches nouvelles aux autres échelons territoriaux ne se traduira pas par un transfert équivalent de ressources. C'est-à-dire que les régions seront obligées de faire la même chose avec moins d'argent. Et on assiste finalement à un processus de désengagement de l'État, ce que la première décentralisation avait aussi un peu représenté. Hein. Mais à l'époque, les conseils régionaux, heureusement d'ailleurs, hein, en matière de construction des lycées d'ailleurs, avaient largement compensé ce désengagement de l'État. Mais plus on va dans ce sens-là, plus évidemment on soumet les politiques éducatives on les soumet aux moyens dont disposent réellement les régions. Et c'est ça qui est dramatique. Et c'est contre ça que les personnels s'opposent aujourd'hui.
des sous et des hommes, et nous sommes toujours en compagnie de Louis Weber pour parler de la décentralisation de l'éducation nationale. Alors vous savez, moi je suis toujours un petit peu, je la comprenais toujours aussi lente, j'arrive pas clairement à comprendre, enfin je me dis mais l'État ne peut pas être de mauvaise volonté, il va forcément transférer les fonds nécessaires aux régions pour que le service continue d'être assuré aussi bien que maintenant. Je me trompe.
Oui, en tout cas, c'est ce que le gouvernement dit. Mais j'ai déjà mentionné tout à l'heure le fait que même à une époque plus favorable, ça ne s'est pas réalisé sous cette forme-là. C'est-à-dire, ça a provoqué quand même des augmentations de la fiscalité régionale importante. Enfin, mais donc il n'y a pas de transfert. Il n'y a pas de transfert exactement équivalent, et surtout il faut replacer ça dans le contexte politique et économique global. Hein, on sait que la France, dit-on, en Europe est aujourd'hui un des mauvais élèves. Hein, donc il y a une très forte pression pour la diminution des financements publics. Une très forte pression pour, il suffit de voir ce qui se passe pour le recrutement des fonctionnaires, pour diminuer le nombre de fonctionnaires. Donc là, ce qui y a derrière le désengagement de l'État, hein, c'est la tentative de privatiser davantage, pour utiliser un terme un peu spécial, le financement de l'éducation. Hein. En clair, aujourd'hui. Grâce d'ailleurs au combat passé, hein, dirais-je, dans un pays comme la France, la contribution privée, je veux dire, des familles aux dépenses de l'éducation reste relativement modérée par rapport à de nombreux pays de l'OCDE. Hein. Donc, à travers ces nouvelles formes de gestion de l'éducation, objectif final, c'est de changer la répartition actuelle des dépenses, hein, c'est-à-dire de faire payer l'État beaucoup moins, les régions un peu plus, mais au total, ça fera quand même moins, le reste étant à la charge des familles, comme ça se passe déjà dans beaucoup de communes où beaucoup de services, hein, qui étaient gratuits jusqu'alors sont aujourd'hui payants. Et ce phénomène-là va s'accentuer, mais il va pas se faire de la même façon selon les communes, selon les écoles, selon les régions. C'est-à-dire les inégalités que j'ai évoquées tout à l'heure qui existent déjà aujourd'hui, faute de moyens venant des finances publiques, vont continuer à s'aggraver.
Mais justement, ces inégalités croissantes, le gouvernement ne peut tout de même pas les vouloir. Alors, j'ai un petit peu de mal à...
Mais ce que le gouvernement veut, hein, c'est sortir de la situation. D'ailleurs, ce n'est pas seulement vrai dans l'éducation, hein, où il y avait, on traduit ça par exemple par une formule un peu rapide qui est l'État-providence, hein, en quelque sorte, où les services publics essentiels, hein, je pense par exemple à l'éducation, à la santé, sont sinon gratuits, en tout cas de faibles coûts pour les personnes. Hein. Bon, alors via différents moyens politiques, hein, y compris les directives européennes, hein, qui sont appliquées dans certains secteurs, par exemple, et qui conduisent à des privatisations, comme pour l'énergie, comme pour la distribution de l'eau, hein, c'est quelque chose qui a considérablement augmenté dans le pays. Donc il y a une tentative générale finalement, et qui dure depuis un certain temps maintenant, de désengager l'État, c'est-à-dire de faire supporter moins à la dépense publique, hein, et donc davantage à la dépense privée. Au risque, hein, encore une fois, d'aggraver les inégalités. Et c'est ce phénomène-là qui me paraît, même si ça paraît un peu abstrait, qui me paraît quand même être derrière un certain nombre de politiques, et notamment derrière ces nouvelles mesures de décentralisation qui sont proposées.
Il y a certaines craintes parmi les enseignants d'une mise en concurrence finalement à terme des établissements les uns contre les autres. Est-ce qu'il y a une réalité à leurs craintes ?
Ah oui, ça, mais c'est-à-dire la mise en concurrence des établissements, malheureusement, elle existe déjà. Hein, c'est vrai que... Alors, il faut remonter peut-être un peu avant. Hein, c'est vrai que ce qu'on pourrait appeler les idées libérales, hein, ou néolibérales, elles peuvent paraître assez séduisantes, d'ailleurs, par certains aspects, hein, surtout qu'il y a une ambiguïté autour du mot libéral. Mais le libéralisme économique, c'est quand même la croyance dans le fait que la meilleure façon de faire marcher les choses, c'est de faire jouer le marché. Et le marché, c'est l'offre et la demande, et c'est la concurrence. C'est la concurrence entre les entreprises, par exemple, qui va amener le développement économique. Et c'est aussi la croyance que c'est la concurrence entre les individus, hein, qui va les conduire à se perfectionner toujours plus pour avoir, alors on utilise un mot pour ça, qui est le capital humain, hein, pour avoir le capital humain nécessaire, enfin, dont les entreprises auront besoin pour fonctionner aujourd'hui et demain. Moi, je suis pas d'accord avec des visions parfois un peu catastrophistes qui voudraient dire que on veut pas que les gens se forment. Si, on veut que les gens se forment, parce que tout l'appareil productif, pour être compétitif, a besoin de gens formés. Mais seulement, on veut les former non seulement aux compétences et aux connaissances, hein, on veut les former à l'esprit d'entreprise, hein, on veut les former à la concurrence. Donc c'est finalement un renversement, ou en tout cas un infléchissement considérable des valeurs mêmes, hein, et qui sont à la base des systèmes éducatifs. Et c'est ça alors une des formes de la décentralisation, c'est vrai que c'est aussi donner plus d'autonomie aux établissements et les mettre en situation de... Enfin, pour les universités, c'est flagrant. Les mettre en situation de concurrence entre elles. Pour les vrais libéraux, être en concurrence, ça veut dire se perfectionner.
Des souhaits des hommes, toujours en compagnie de Louis Weber, de la FSU. Alors, il y a un terme que j'entends, que je lis un petit peu partout dans la littérature altermondialiste, on pourrait dire, qui est le terme de marchandisation du monde. Est-ce qu'on peut faire un pont un petit peu entre ce qu'on a dit précédemment avec ce terme-ci, enfin au-delà du terme, de la réalité de ce que ça peut être ?
Oui, absolument. Il faut peut-être s'entendre un peu sur les termes. Hein. C'est vrai que parfois il y a hésitation entre privatisation, marchandisation. Bon, moi, quand je dirais marchandisation, je renvoie à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le fait que des règles, des façons de penser directement inspirées du monde de l'économie, hein, où tout est réduit à une marchandise qui se vend et qui s'achète. Cette façon de penser tend à imprégner de plus en plus la réflexion sur l'école, hein, sur le système éducatif. Alors, c'est vrai qu'il faut peut-être revenir, mais très rapidement en arrière. On peut dire que jusque dans les années 70, hein, et notamment avec les 30 glorieuses, les systèmes éducatifs ont s'intéressé relativement peu à leur coût. Hein. On était à ce moment-là dans la phase ascendante, hein, prolongation de la scolarité obligatoire et ainsi de suite. À partir de ce moment-là, alors vous pouvez faire le rapport ou non avec les premières crises économiques de l'ère moderne, un organisme comme l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, qui est un peu le laboratoire d'idées des pays capitalistes, a commencé à attirer l'attention sur le fait que le coût de l'éducation, hein, allait poser des problèmes à l'avenir, hein, et donc sans simplifier les choses, hein, c'est vrai que une des tendances fortes de toutes les politiques qui ont suivi a été de tenter de diminuer, hein, le coût de l'éducation pour les finances publiques. Alors il y a deux façons de faire, hein, c'est les diminuer et puis c'est aussi les partager avec les utilisateurs qui de plus en plus sont devenus des clients. Donc il y a eu c'est résumé un peu à la hache, hein, mais c'est quand même un peu ça, et c'est dans ce cadre-là, finalement, qu'on peut réinterpréter un certain nombre des phénomènes qu'on voit aujourd'hui. Hein. Augmentation de la part des familles dans les dépenses, hein, c'est un des volets. Souci de rendre, alors j'utilise leur langage, les systèmes d'éducation plus efficaces. Mais pour un bon libéral... on est efficace que si on est stimulé. D'abord, il ne faut pas être trop collectif, hein, d'où la mise en valeur de l'individualisme plutôt que des valeurs collectives. Il faut mettre les gens en concurrence et puis il faut leur donner la possibilité de choisir. C'est-à-dire, on est dans le cadre du marché. Donc, des choses qui étaient établies avant, comme la carte scolaire, par exemple, hein, bon, ça tend quand même aujourd'hui à disparaître. remarquez d'ailleurs que les enseignants sont les premiers à jouer un jeu dont ils mesurent peut-être pas toujours les conséquences. Mais ça veut dire que, revenons au terme de marchandisation, dans les établissements scolaires, le choix des options, quand même, c'est directement lié à une espèce d'investissement personnel, concurrentiel, le choix des langues vivantes, par exemple, où tout le monde n'est pas aussi égal que son voisin, si je peux dire. Il y a des initiés, des non-initiés. Ceux qui choisissent les bonnes options, ceux qui, à Paris, on dit même qu'il y a des établissements où les classes sont constituées et on retrouve à peu près les classifications sociales, tout simplement à travers ce jeu-là. Donc il y a une espèce de marché interne à l'éducation qui s'est petit à petit constitué par le contournement de la carte scolaire et même dans un établissement donné par le bon choix des options. C'est-à-dire que de plus en plus, au fond, on cherche d'une part à favoriser dans la formation, comme on disait naguère, de l'homme, du travailleur et du citoyen. On oublie un peu le citoyen. On insiste beaucoup sur le travailleur, parce que l'appareil productif a besoin, pour être compétitif dans la compétition internationale, a besoin de travailleurs plutôt bien formés. Mais surtout, on forme, et on l'oublie parfois, on forme aussi le consommateur de la société de demain. D'où toute une série d'activités pédagogiques souvent sponsorisées par les entreprises, qui visent tout simplement à... En Europe, au niveau de la Commission européenne, il y a un livre vert qui s'appelle « Développer l'esprit d'entreprise », qui est tout récent, de janvier, qui dit que très précocement, il faut former les jeunes à l'esprit d'entreprise, c'est-à-dire il faut les rendre créatifs, mais pas créatifs au sens où l'entendrait un professeur d'art plastique, il faut les rendre créatifs au sens où l'entend l'entreprise. Donc former un travailleur qui soit flexible, adaptable, employable, comme on dit maintenant, et puis former un consommateur. Donc c'est... Moi, je crois que, encore une fois, sans vouloir simplifier, quand même, la politique actuelle, c'est à travers ce filtre qu'on peut la réinterpréter et la mettre à sa juste place.
Eh bien, merci Louis Weber de nous parler de la décentralisation. J'en profite pour dire que lundi 19 mai à 14h, si j'ai bon souvenir, et si j'ai bon souvenir, au Luxembourg, il y aura une grande manifestation d'enseignants. Je ne peux peut-être qu'inciter chacun de ceux-ci, mais aussi peut-être justement les parents d'élèves, à rejoindre cette manifestation qu'on peut peut-être souhaiter la plus grande que possible. La semaine prochaine, nous écouterons enfin, puisque ça avait été déjà annoncé une première fois, Damien Millet du CADTM, c'est-à-dire du Comité d'abolition de la dette du tiers-monde, donc sur le problème de la dette. À la semaine prochaine.